Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Nous annoncions en sommaire de cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA et on va aborder dans cette deuxième partie de l'émission comment prévenir la propagation du VIH/SIDA. Nous en parlons avec notre invité Aimé Bolembo qui est expert en VIH/SIDA. Il vient de nous rejoindre dans ce studio. Aimé Bolembo, bonjour.
Bonjour Marcel.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question sur la propagation du VIH/SIDA à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. Nous rappelons le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à composer les 081-890-63-94. Alors, voulez-vous d'abord nous rappeler le thème pour cette édition 2016 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA?
Merci Marcel. La communauté internationale a choisi comme thème pour cette année « Levons la main pour la prévention du VIH ». Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire « Levons la main » ? Levons la main, c'est un appel à un engagement total de toute la communauté internationale pour faire face à cette pandémie. Et comme vous le savez, à un moment donné, plusieurs années avant, on avait mis l'accent sur la prévention. Et après, quand la maladie s'est vraiment manifestée et qu'il y a beaucoup de cas, on a mis l'accent sur la prise en charge.
La prise en charge, oui.
Mais alors, en mettant l'accent sur la prise en charge, on a constaté que on a un peu négligé la prévention, à tel point qu'il y a eu augmentation des nouveaux cas d'infection. Alors c'est ainsi qu'on dit non, il faut revenir à la prévention, parce qu'en fait, on ne peut pas vaincre le VIH sans vraiment réussir la prévention. Voilà pourquoi la communauté internationale a décidé qu'on mette l'accent sur levons la main pour la prévention. Donc que toute la communauté internationale s'engage justement à prévenir la transmission du VIH/SIDA.
Alors parlons justement de cette prévention. Qu'est-ce qu'il faut pour prévenir la propagation du virus du VIH/SIDA?
C'est un domaine très vaste.
Oui.
Quand on parle de la prévention, je peux dire qu'il y a tous les axes dedans. Il faut prévenir par la communication, c'est-à-dire par la sensibilisation, afin d'améliorer le niveau des connaissances de la population. Il faut prévenir auprès des personnes qui sont sous antirétroviraux, pour que réellement qu'ils puissent prendre ces médicaments avec respect des normes, mais aussi prévenir contre la stigmatisation, contre la discrimination et les rejets des personnes vivant avec le VIH. Donc, c'est tout un paquet complet de lutte contre le VIH.
Alors, prenons le cas de la RDC. Si on doit faire une espèce d'évaluation par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA pour ce qui est de la prévention où on en est aujourd'hui.
Je pense que le PNMLS a fait un état de lieu dans ce sens-là, pour voir où en sommes-nous. Et on a constaté que le grand problème, c'est que faible financement de lutte contre le VIH/SIDA dans notre pays, faible engagement des leaders à tous les niveaux, des leaders politiques, de leaders socio-économiques, des leaders communautaires qui ne s'y intéressent pas vraiment assez. Donc pour réussir cette prévention, il faut vraiment qu'il y ait un engagement gouvernemental pour mobiliser assez de moyens pour lutter contre le VIH et le SIDA, mais aussi il faut mobiliser toutes les communautés, les leaders d'opinion, les leaders de communication de masse, comme le cas aujourd'hui. Oui. Vous voyez que Okapi a pris en main ses responsabilités pour en parler suffisamment. Voilà, donc il faut que chacun, en ce qui les concerne, puisse réellement s'engager dans cette lutte.
Alors, qu'est-ce qui pour retenir aujourd'hui sur la propagation de cette maladie? Comment se propage le virus du VIH/SIDA?
Ben, c'est connu, hein, les voies de transmission sont connues. Ce sont des voies traditionnelles, hein, par la voie sexuelle. Nous avons la voie par la mère à l'enfant. Ok. Alors, ce sont et puis par la voie sanguine. Il y a trois.
Oui.
Il y a trois voies. La voie sexuelle, la voie sanguine et la voie de la mère à l'enfant. Alors, il faut que les acteurs sociopolitiques qui sont dans la lutte contre le VIH/SIDA justement prennent soin de mener beaucoup d'activités dans ce sens-là.
Alors prenons de la voie sexuelle. S'il faut prévenir hein, par rapport à d'abord cette façon d'attraper le VIH/SIDA par voie sexuelle, et comment on peut prévenir d'abord si on commence par la voie sexuelle, quelles sont les précautions à prendre?
La voie sexuelle, c'est d'abord que c'est tout pour les jeunes. Il faut améliorer leur niveau de connaissance pour qu'ils utilisent bien le préservatif masculin comme féminin, mais aussi faciliter le dépistage auprès des jeunes. Vous savez qu'il y a des lois qui ne permettent pas qu'on puisse dépister hein, les ados. Par rapport au VIH, il faut qu'il y ait implication des parents. Et ça peut constituer aussi un frein, justement, dans cette démarche-là. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des lois qui facilitent le dépistage du VIH auprès des jeunes.
Le dépistage constitue également un moyen de prévention.
Bien sûr.
On sait qu'on est à
Marcel,
on a la maladie.
Marcel, c'est d'ailleurs la voie, parce qu'on ne sait pas lutter si on ne sait pas si on est séropositif. Donc il est important qu'on banalise cette situation, que l'on dise que ben aujourd'hui je suis libre d'aller me faire dépister, et positif ou négatif, eh bien je sais que aujourd'hui il y a des moyens pour permettre à la population de vivre longtemps avec le virus du SIDA.
Est-ce que par rapport au dépistage, vous êtes expert en VIH/SIDA, vous pensez qu'il y a des avancées, c'est-à-dire les gens vont se faire tout de même dépister volontairement?
Et bien sûr, nous avons dit qu'il y a un grand nombre, justement, c'est ainsi qu'il y a des associations,
oui.
et je pense que le gouvernement fait quand même un effort dans ce sens-là, avec les partenaires d'appui hein, pour appuyer les associations, appuyer les formations sanitaires, hein, en tests et en médicaments, justement pour renforcer cet aspect de choses.
Ah, vous avez évoqué également une autre voie de transmission, c'est la voie sanguine. Hein, et dans ce domaine, hein, quelles sont les précautions à prendre?
Bien, la voie sanguine, nous savons que c'est la voie la plus sûre. C'est-à-dire que si vous entrez en contact avec un sang contaminé, bien automatiquement vous avez le virus du SIDA. Alors c'est pour cela que nous demandons, c'est que qu'il y ait vraiment cette prévention au niveau du sang, et le gouvernement a mis en place tout un programme justement qui permet à ce qu'on puisse avoir du bon sang hein, pour la transfusion, mais aussi il faut surtout mobiliser les donneurs hein, bénévoles, parce qu'en fait beaucoup de gens ne donnent pas. Souvent quand vous allez dans des formations sanitaires, vous trouverez qu'il y a des malades mais qui manquent, n'est-ce pas, des proches qui manquent du sang. Et là il faut qu'il y ait assez hein, de donneurs de sang pour que dans toutes les formations sanitaires, quand on a besoin d'un bon sang, des sangs déjà testés, eh bien qu'on puisse que les personnes puissent avoir accès à ces produits.
Et en dehors de la transfusion sanguine, on donne également des conseils, par exemple à éviter des
bien sûr, objets tranchants. Il y a toute une gamme d'informations autour des objets tranchants, hein, autour des soins corporels. Voilà, donc il faut éviter des objets tranchants, tout ce qui peut permettre à ce que qui est blessure, et que vous puissiez entrer en contact avec un sang qui n'est pas le tien, eh bien il faut toujours éviter.
Comment prévenir la propagation du VIH/SIDA? On en parle au cours de cette émission avec Aimé Bolembo, qui est expert en VIH/SIDA. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à composer les 0 81 890 63 94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Et mais bon, on poursuit avec vous. On parlait de différentes voies de transmission du VIH/SIDA. Vous avez parlé de la voie sexuelle, de la voie sanguine, mais également cette voie de la mère à l'enfant. Et là, s'il faut également aborder des précautions à prendre, qu'est-ce qu'il faut retenir?
Ah oui, le pays a pris aussi des précautions dans ce domaine-là. On parle aujourd'hui de l'élimination de la transmission mère-enfant. Eh bien, il y a tout un programme gouvernemental avec le PNMLS et le PNMLS. Et puis les partenaires qui sont dans ces domaines-là pour que réellement qu'on puisse lutter de manière à ce que la mère, d'abord il faut réduire, il faut faire d'abord que toutes les femmes en âge de procréer ne soient pas contaminées. Eh bien, mais si elle est contaminée et qu'elle devient grosse, eh bien, il faut tout faire pour que cette mère-là ne puisse pas transmettre le VIH à l'enfant qui est en son sein.
Voilà, on va avoir des auditeurs en ligne, puisqu'il y a déjà Serge Kingi qui nous appelle des Kindo. Mais dites-nous, Aimé Bolembo, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la catégorie d'âge qui est la plus concernée par le VIH-SIDA?
Oui, je pense que le programme a bien travaillé dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus les ados.
Les adolescents, oui.
Les adolescents de 10 à 19 ans qui sont beaucoup plus touchés. Et nous avons quelques chiffres devant nous.
Oui, allez-y.
Nous avons un nombre d'adolescents de 10 à 19 ans vivant avec le VIH. Nous avons 36 700 selon le PNMLS. Et nombre d'ados nouvellement infectés, c'est 1340. Et nombre de décès liés au sida chez les ados, c'est 1580. Et prévalence du VIH chez les ados, nous avons c'est 0,5%. Chez les homosexuels, nous avons 5,5% et les ados professionnels de sexe de 15 à 19 ans, 4,5%. Vous voyez que c'est très important. Vous voyez qu'au niveau des homosexuels,
oui,
c'est très élevé, mais aussi au niveau des professionnels de sexe. Et c'est vraiment la cible.
Il faut davantage sensibiliser les jeunes par rapport à cette maladie. Donc on va poursuivre, parce que là, j'aimerais également savoir par rapport à ça. Vous avez parlé des nouvelles infections chez les jeunes. Vous avez évoqué le chiffre de 1340. Il faut un peu nous aider à comprendre quand on dit nouvelle infection, qu'est-ce que ça veut dire. Okay. On va y revenir. Le temps pour nous d'accorder la parole à Serge Kingi, qui nous appelle de Kindo. Bonjour Serge.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité du jour aussi.
On vous écoute, Serge.
Oui, ma préoccupation était juste d'abord à donner quelques contributions face au PNMLS. Et j'aimerais aussi demander à l'invité pourquoi seulement le PNMLS ne distribue pas souvent, pourquoi le PNMLS distribue souvent les diagnostics imprégnés de ces suicides. Là, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait à ceux qui ne puissent pas distribuer des préservatifs dans des écoles, des ménages et dans des terres, souvent là où il y a beaucoup de sexualité? C'est ça ma première préoccupation. Et j'aimerais aussi demander à l'invité, dans quel camp dont un bébé peut sortir sain et sauf là où sa maman était atteinte du VIH-SIDA? Ma deuxième préoccupation était, quels sont les signes visibles qu'on peut observer à une personne atteinte de la maladie du VIH-SIDA? Je vous remercie. C'est Serge Kingi.
Merci Serge Kingi depuis Kindo. On revient ici à Kinshasa. On va retrouver Constant. Bonjour Constant.
Bonjour Marcel. Bonjour aussi à l'invité du jour. Oui, Marcel, moi, j'ai trois petites choses à demander à l'invité ce matin. Je voulais d'abord demander si les objets tranchants peuvent aussi transmettre le VIH-SIDA chez quelqu'un. Alors, les questions sont les suivantes. La première question, je vais demander d'abord si quelqu'un s'est blessé par un objet tranchant, comment est-ce qu'il peut savoir si cet objet-là l'a transmis le VIH? Et la deuxième question est de savoir si quelqu'un a su que cet objet-là l'a transmis le VIH, alors quelle prévention, comment est-ce qu'il peut prévenir ça pour que ça ne s'aggrave pas? Et la dernière question est de savoir si quelqu'un est encore blessé par un objet tranchant et il a une plaie de cet objet-là, cette plaie-là peut avoir quel symptôme? Donc, comment est-ce qu'elle sera manifestée? Donc, dans ce sens-là, je voulais demander à l'invité pour me satisfaire aussi à mes questions. Bonne journée.
Merci. Constant, depuis Kinshasa, Aimé Bolembo, vous avez suivi Serge qui a appelé les Kindo, et Constant qui est ici à Kinshasa. Alors, Serge a parlé de la distribution des préservatifs, comme ça se fait avec le programme national de lutte contre le paludisme. Il dit il y a des distributions de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides, et il pense qu'on pouvait également le faire pour le préservatif.
Oui, je pense qu'il y a des avancées dans ce sens-là, avec l'appui de certains partenaires. Je pense qu'il y a un programme qu'on appelle le programme national des adolescents, hein, qui s'y intéresse, et aussi certaines associations comme ABEF, hein, qui aussi plongé dans la prévention auprès de jeunes qui essaient de le faire. Mais il y a encore un peu de frein, comme l'avons dit, dans les écoles. On dit que les ados, on ne peut pas directement...
C'est les encourager.
C'est comme si on les encourageait. C'est comme si on les encourageait. Alors maintenant, quand même, il y a un effort. On essaie de prendre contact avec les responsables des écoles. On essaie un peu de cibler les classes, parce que au niveau des 5e, 6e année secondaire, par exemple, on a des gens de grands jeunes et on essaie de leur parler, hein, parce qu'il y a des études qui montrent que l'âge de premier rapport sexuel, c'est autour de 13-14 ans, donc déjà. Alors, il faut prendre soin des d'informer ces jeunes-là et aussi ceux qui sont déjà activement sexuels de d'utiliser les préservatifs.
Mais il a également posé la question sur la transmission mère à l'enfant. Comment faire en sorte qu'une maman qui est infectée ne puisse pas transmettre la maladie à son bébé, pour que le bébé soit sans VSIDA.
Oui, je pense que d'abord il y a un travail, c'est tout un axe, hein, de lutte contre VSIDA, la prévention de la transmission mère enfant. Et aujourd'hui on parle, comme je l'ai dit, de l'élimination, hein, de la transmission mère enfant. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour éliminer, pour qu'il n'y ait pas des enfants nés, hein, séropositifs. Alors pour cela, il y a des mécanismes, hein, il y a des stratégies, hein, mises en place. C'est-à-dire que la femme qui est séropositive, hein, sera déjà prise en charge, hein, en fréquentant la maternité, elle sera sensibilisée, mais elle sera mise sous prophylaxie, n'est-ce pas, en lutte contre le VIH. Et quand l'enfant naît, il y a des conditions, les personnels soignants est formés pour comment préparer cette femme
Il faut avoir des centres qui sont bien équipés également, qui ont tous ces matériels et tous les personnels formés pour s'occuper vraiment de cette prise en charge.
Que dans toutes les formations sanitaires, oui, sanitaires, je voulais dire, où il y a la maternité, eh bien, le personnel est formé pour accueillir les femmes enceintes. Et il y a aussi le test qui se fait justement pour savoir si la femme enceinte est séropositive. Que faut-il faire pour, n'est-ce pas, préparer cette femme à mettre au monde dans les bonnes conditions sans qu'il y ait risque de transmettre le VIH à son enfant.
Il a également cherché à savoir le signe visible du VIH/SIDA pour une personne qui a la maladie.
Bon, des signes, on les sait, mais aujourd'hui, on ne met plus l'accent vraiment sur les signes comme tels. Tout ce qu'on demande, c'est que il faut plutôt inviter des personnes à aller se faire dépister. Ça, c'est très important, parce que tu peux maigrir, tu peux avoir des taches, d'autres maladies aussi peuvent conduire à cela. Mais la réalité, c'est que la population doit savoir qu'il faut que chacun de nous s'efface dépister pour connaître son état sérologique.
Alors, Constant, lui, c'était plus avec les objets tranchants. Il voulait savoir, lorsqu'on se blesse avec un objet tranchant qui a peut-être été utilisé par une autre personne, comment il faut réagir?
Oui, notre ami voulait un peu confondre les choses. Ce n'est pas l'objet qui transmet le VIH, parce que en l'écoutant, c'est comme s'il voulait dire, eh bien, si tu as un objet tranchant, eh bien, l'objet peut transmettre. Non, nous avons dit c'est l'objet suyé, c'est-à-dire que l'objet qui est en contact avec le sang contaminé, c'est-à-dire que le sang qui a déjà le virus, eh bien, si cet objet tranchant, hein, immédiatement quand le sang est encore frais et que la personne entre en contact avec ce sang à travers une blessure ou une porte ouverte sur la peau, eh bien, la personne peut être contaminée par le VIH.
Il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire.
C'est-à-dire qu'il faut éviter justement tous les objets tranchants. Ce qu'on demande, c'est que ça soit pour la coiffure ou autre activité des soins, eh bien, il faut avoir son trousseau, hein, de matériel. Par exemple, pour se faire coiffer, vous pouvez avoir votre trousseau de coiffure et ça vous permettra justement d'être à l'abri, hein, de la contamination.
Et si vous avez quelques craintes, autant aller faire le test. Alors si...
Ah oui,
si vous
pensez que vous avez été piqué par une aiguille qui est restée longtemps à côté, ou encore un objet tranchant qui venait d'être utilisé par quelqu'un quelques minutes avant, eh bien, la première précaution, c'est d'aller se faire dépister.
Un autre auditeur en ligne, Roger, qui nous appelle de Guémena. Bonjour Roger.
Bonjour Radio Capi. Merci pour la parole que vous m'accordez. J'ai des questions que j'aimerais poser à l'invité.
Allez-y.
Ok. La première question de savoir, on parle des sida aujourd'hui. J'ai découvert les sida. Et parmi tous les provinces de la RDC, quelle est la province la plus contagieuse des sida? C'est ça ma deuxième question.
Vous avez demandé qui a découvert le sida?
Oui.
Ah, d'accord.
La deuxième question est de savoir...
La province de la RDC la plus touchée, oui. Merci Roger, merci d'avoir appelé de Guémena. Gentil Loumanou, vous êtes à Kananga. Bonjour Gentil.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité du jour.
On vous écoute, oui, Gentil.
Merci de m'avoir accordé la parole. Par la par rapport à notre thème d'aujourd'hui, comment prévenir le VIH-Sida. Alors, je voulais demander à notre invité, s'il y a un vaccin qui lutte contre la tuberculose, parce que le vaccin, c'est un antibiotique, lorsque on introduit dans l'organisme, ça doit prévenir contre cette pathologie-là. Mais s'il y a un vaccin contre la tuberculose, contre la tétanos, pourquoi pas il n'y a pas aussi un vaccin contre le VIH-Sida? Ça, c'est la première question. Ma seconde question, je me suis retrouvé devant une couple qui se décidait d'entrer au mariage. Ils étaient allés qu'on puisse faire les examens qu'on fait avant le mariage. Après avoir fait les examens, on a trouvé que le couple ici était négatif. L'homme et la femme, tous deux étaient négatifs. 3 mois après, dans le mariage, l'homme a commencé à souffrir. On a recouru à l'hôpital pour qu'on puisse faire les examens. Après avoir fait les examens sur les bancs de laboratoire, le docteur avait demandé aussi le VSD, ou bien l'examen de laboratoire du VSD. Après avoir fait ces examens-là, on a trouvé que l'homme était positif. Alors je voulais demander à notre invité, par là, quel conseil que l'invité peut donner à la dame? Parce qu'on avait fait les examens avant, on a trouvé que l'homme était négatif, mais dans le mariage, on a trouvé que l'homme était positif. Ma question de savoir, quel conseil que l'invité peut donner à la femme? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on peut interpréter les résultats de laboratoire avec quel type d'examen? Avec le détermin. Parce que le détermin est sensible à répondre à plusieurs virus. À part le détermin, on peut déterminer que ce type ici souffre du VIH-Sida à partir de quel examen. Troisième question que je voulais demander à notre invité. Lorsque vous êtes en contact de VIH-Sida aujourd'hui, après combien de mois, après combien de jours, on peut attendre pour qu'on puisse faire les examens, qu'on trouve les réponses positives? Merci, c'est gentil, Manu de Kana.
Beaucoup de questions de la part de Gentil Mano depuis Kananga. Merci Gentil Mano. Reviens vous, mais Bolembo, vous avez celui Roger qui a appelé les Guémena, qui a cherché à savoir, qui a découvert le VIH-Sida et puis qui est la province la plus touchée ici en RDC.
Bien, ce que je peux dire à mon ami, l'important ce n'est pas de savoir qui a découvert le VIH-Sida. L'important c'est pour nous ici, si nous parlons de la prévention, c'est de savoir que le VIH-Sida existe bel et bien et qu'il doit faire attention, il doit se protéger, il doit lutter contre le sida. Donc mon frère, là où vous êtes, soyez rassuré que la réalité est vraie, que le sida est là, le VIH est là, eh bien... Il ne faut pas en douter. Il faut prendre des précautions, n'est-ce pas, pour que vous ne puissiez pas entrer en contact avec le virus du sida. Et pour la province, je n'ai pas de chiffres avec moi. Je pense que là, le programme pourra venir parce que le PNLS a fait des études de séroprévalence. Et là, si vous invitez prochainement le programme national de lutte contre le sida, il pourra donner des chiffres par rapport à la province qui est la plus touchée.
Alors, vous avez suivi Gentil, qui abordait la question sur le vaccin.
Ouais,
est-ce qu'il en est à de recherche par rapport au vaccin?
C'est un domaine très important. Oui. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui. C'est vrai que d'autres, pour des cas d'autres maladies, on a déjà trouvé des vaccins. Mais, pour le VIH, on n'a pas encore trouvé le vaccin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études. Il y a des pas avancés, dans la recherche. Mais, la communauté internationale ou bien les chercheurs, les scientifiques n'ont pas encore mis au point un vaccin réellement qui pourrait être à la disposition de la population. Mais il y a des avancées dans la recherche dans ce domaine-là.
Vous avez également suivi, il a évoqué le cas de ces couples avant le mariage. Ils sont partis faire le test, tous les deux étaient séronégatifs. Et 3 mois, 4 mois après le mariage, il y a le mari qui a été testé séropositif. Il fait comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Marseille, c'est un problème complexe. D'abord, c'est un problème d'amour. Dans les mariages, les gens sont liés, n'est-ce pas, par amour. Les gens s'aiment et ils se décident. Je pense que nous ici, nous en tant qu'experts dans le domaine, on ne peut pas, par exemple, dire que les mariés se séparent parce que l'un est séropositif. Non, je pense qu'ils ont bien fait de faire les tests avant le mariage. Mais s'il s'avère que après le mariage, quelques années après, qu'il y ait des signes et après dépistage, on constate que l'un est contaminé, eh bien, c'est vraiment un sujet d'aborder dans le couple. et ils doivent aller voir le médecin, un spécialiste, pour les orienter dans les conseils.
Oui. Mais par rapport au test lui-même, il a cherché à savoir qu'est-ce qui peut se passer, que vous faites un test, vous êtes séropositif, négatif, et puis quelques temps après, on dit non, le test est positif. Il aimerait savoir, et dans l'entretemps, même si on n'a pas eu de relations sexuelles non protégées, ou peut-être de relations sexuelles, ou peut-être on s'est dit mais j'ai été contaminé nulle part, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut savoir si c'est possible d'avoir des résultats comme ça. Oui.
Mais il a parlé de Determine. Les Determine sont des tests très sensibles, hein, n'est-ce pas, qui peuvent faire des qui peuvent donner des résultats très très sûrs, parce que c'est très sensible. Mais ça peut aussi peut-être aller au-delà, parce que dans cette sensibilité, on peut à des cas, peut-être si le test n'était pas bien fait, hein, on peut dire que voilà, c'est séro positif. Mais lorsque on le fait vraiment au niveau du programme national, lorsque on trouve que la Determine c'est séro positif, on demande encore de faire d'autres examens, hein, beaucoup plus élaborés, hein, pour confirmer. Donc, il y a des tests de confirmation au labo, hein, pour que on dise réellement que tu es atteint du virus.
Et une autre question.
Alors, s'il arrive,
Bon,
s'il arrive que après, l'un est séropositif, ça peut arriver peut-être que si, dans le mariage, l'un du couple a été contaminé sans le savoir. Voilà, ça peut aussi se faire comme cela. Ou peut-être que bon, les tests qui ont été faits avant n'étaient pas vraiment fiables. Il peut arriver que après des années, que l'un des couples puisse développer la maladie. Dans tous les cas, c'est faut que le couple en parle et discute, parce que ils ne peuvent pas se séparer. Il faut qu'ils arrivent à s'attendre comment celui qui est séronégatif peut prendre soin de la personne qui est séropositif.
Il y avait également cette autre question de notre auditeur du Kananga qui a cherché à savoir lorsqu'on a été infecté, c'est après combien de temps que la maladie peut se manifester?
Bon, ça, c'est là, dépend d'un organisme à un autre. La maladie peut se manifester très rapidement chez les uns et plus tard chez les autres. Donc il n'y a pas vraiment
une fourchette.
Non. Bon, la fourchette, c'est souvent on peut dire par exemple après après 5 ans, ça dépend, après 10 ans, hein, ou même encore après 3 ans, ça dépend de l'organisme d'une personne à une autre.
Justement, par rapport à cela, quand vous parlez des 1340 jeunes de nouvelles infections, on aimerait savoir, et dites-nous pas comprendre, parce que vous avez parlé d'abord des jeunes qui ont la maladie et des jeunes nouvellement infectés.
Oui. Nouvelles infections, c'est quoi? C'est que on a fait des enquêtes, des études, on a trouvé qu'il y a un nombre qui était infecté. Mais après cette enquête-là, on constate que des nouvelles infections, c'est-à-dire que des gens qui ont été sains, mais qui sont maintenant contaminés. Donc, c'est ce qu'on appelle de nouvelles infections. On vous a fait un test, vous étiez séronégatif, et une année après, deux ans après, on fait encore des enquêtes, on trouve que la personne qui était séronégative devient séropositive. À ce moment-là, ce sont de nouvelles infections.
Voilà, d'autres auditeurs en ligne, Papy qui nous appelle de Goma et Serge qui est à Calémie. Papy, bonjour.
Oui, bonjour.
On s'écoute, Papy.
Papy, bonjour. Oui,
vous écoutez,
la question concerne les statistiques que nous avons suivies à la radio qui font vraiment peur. Nous avons appris qu'au moins 4 jeunes par jour meurent par jour suite à l'infection du VIH/SIDA. Alors ça, c'est vraiment horrible. On se demande comment est-ce qu'on ressort de ces statistiques-là. Comment c'est vérifiable si on doit avoir 4 jeunes par jour? Donc, en un mois, en une année, c'est vraiment un chiffre extraordinaire. Comment on peut nous rassurer que cela est vrai? Et quel est l'impact de toutes les sensibilisations qu'on fait? C'est comme si ça n'a vraiment pas assez d'impact.
Merci, Papy, depuis Goma. Serge, vous êtes à Calémi. Bonjour, Serge.
Ah oui, bonjour, Radio Capi. Merci beaucoup pour la parole. Moi, j'avais juste quelques questions rapides. Premièrement, je voulais savoir, poser une question à l'invité. Pourquoi les jeunes sont beaucoup plus touchés? Parce que les statistiques là relevées au début de l'émission sont quand même inquiétantes. Alors, je voulais savoir pourquoi les jeunes sont plus touchés. Deuxièmement, je voulais donner une proposition à l'invité. quant à la sensibilisation des parents, des tuteurs et des responsables d'éducation. Parce que il a dit que les jeunes qui sont beaucoup plus touchés sont âgés de 10 à 19 ans. Alors, à cet âge-là, en République démocratique du Congo, les jeunes sont sous la responsabilité des parents. Alors, il ne serait pas possible, il ne serait pas beaucoup plus judicieux de commencer par sensibiliser d'abord les parents, commencer par sensibiliser d'abord les enseignants, parce que ces élèves, voilà, si on a un peu, on prend les sida comme un tabou, ces jeunes-là pourraient constituer un danger réel, même pour les enseignants. Quand on utilise, par exemple, le rasoir et que après un jeune se fait couper, et par exemple, un parent vient de récupérer le même instrument, ça pourrait lui poser beaucoup de problèmes après. Alors, est-ce que messieurs, avec son organisation, ont au moins prévu une sensibilisation des parents, des tuteurs, pour un peu faire comprendre les dangers du sida face aux jeunes? En tout cas, c'était ça les quelques questions que j'avais pour l'invité. Merci.
Merci Serge. Depuis Kalemi, Aimé Bolembo, vous avez suivi, hein, oui. Les deux auditeurs qui viennent d'appeler, Papy et Serge, sont vraiment préoccupés, hein, oui, par rapport à ces problèmes du sida, oui, chez les jeunes. Alors il y a Papy qui dit, qui d'abord, comment on arrive un peu à faire ces statistiques-là, qui dit les chiffres sont vraiment effrayants. Et puis il y a Serge qui a cherché à savoir pourquoi les jeunes sont le plus touchés et comment faire davantage pour responsabiliser les parents.
Eh bien, les chiffres qu'on avance, ce sont des chiffres qui sont liés aux études. Et il y a des statistiques, il y a des estimations qui sont, oui, faites. Donc, nous avons la population générale et les enquêtes font des estimations et on détermine ces chiffres-là. Donc, ce sont des chiffres inventés, ce sont des chiffres qui sont ici, hein, qui sont donnés à l'issue des enquêtes. Et ce sont des estimations. Alors,
pourquoi
les jeunes? Au fait, nous avons toujours dit que les jeunes sont constituent la cible la plus exposée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on sent aujourd'hui que les jeunes ne sont pas suffisamment encadrés. Et nous constatons que les jeunes sont exposés aux médias, à des pratiques, n'est-ce pas, sexuelles, non autorisées, par exemple à leur âge, mais aussi à la consommation de boissons fortes. Vous le savez, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, soupe natolo, autre chose. Et là, ça ne permet pas aux jeunes de se contenir.
Oui.
Il y a aussi l'aspect, nous ajoutons aussi la pauvreté aujourd'hui. Les parents qui ne sont pas à mesure de prendre en charge, n'est-ce pas, les jeunes, les enfants, eh bien, il y a certaines jeunes filles qui se prennent en charge elles-mêmes. Et ça, nous le savons. Nous avons des cas des enfants de la rue, nous avons des cas des enfants qui sont abandonnés, il y a des foyers où réellement ce sont des filles qui nourrissent les parents. Donc voilà, autant de situations qui font qu'il faut améliorer les conditions de vie de jeunes, mais aussi ouvrir des espaces de jeunes au travail, parce que beaucoup de jeunes, quand ils n'ont pas de travail, ben ils se lancent à des activités qui ne permettent pas à ceux-ci de se protéger.
Voilà, donc je reviens, Aimé Bolembo, sur le thème de cette journée mondiale du VSID édition 2016. Lévons la main pour la prévention du VSIDA. Donc il faut l'engagement de tout le monde, et vous avez dit qu'il faut beaucoup de moyens pour continuer à sensibiliser davantage les communautés, la population sur le VSIDA, et vous avez surtout insisté, hein, par rapport à cette catégorie la plus touchée actuellement, la catégorie des jeunes. Il faut beaucoup sensibiliser les jeunes, beaucoup les responsabiliser, et vous avez également conseillé qu'il est bon de se faire dépister pour connaître son état sérologique. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, peut-être un petit message par rapport à cette journée.
Un petit message, c'est vraiment le message de la journée mondiale.
Oui.
C'est-à-dire que l'engagement de toutes les communautés. Lèvons la main pour la prévention. Eh bien, il ne faut pas que, parce qu'aujourd'hui on met l'accent sur la prise en charge, qu'on néglige la prévention. Il faut que les associations, les communautés, et là j'insisterai même pour, parce que lorsqu'on a demandé à chaque pays de dessiner la main et de mettre des messages forts, moi je dirais que il faut qu'on donne assez d'appui à la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui ne sont pas appuyées. Souvent, le peu d'argent qui arrive dans le pays, ça reste beaucoup plus au niveau national, au niveau provincial. Mais les associations qui sont au niveau communautaire ne bénéficient pas assez de ces financements. Donc, il est important qu'on puisse appuyer les écoles, qu'on puisse appuyer les associations pour que réellement cette lutte puisse atteindre la population cible. Et ça, c'est important, et que chacun doit vraiment faire son travail.
Et mais Bolembo, nous rappelons que que vous êtes expert en VIH/SIDA. Merci d'avoir été de notre pour aborder ces questions sur la prévention du VIH/SIDA. Merci, on espère vous retrouver prochainement.
Merci Marcel.